knows the instructions and you don't. That's what he's saying.
No.
I think every woman would do the same. Mm. We use them.
Use Clara.
It doesn't work.
It's broken.
Two
Bally's instructions, your maple, the confiture. No. Two spinners, the strawberry. And some more.
Moi, je lis tout.
Ah ouais,
je sais pas si vous êtes pareil.
Non.
Et quand vous lisez, est-ce que vous croyez ce que vous lisez? Ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique?
Pas toujours.
Sceptique, ça dépend quoi, ouais.
Quand vous lisez le journal, par exemple, ou... Si vous ne lisez pas, si vous, quand vous regardez les infos à la télé.
Sceptique, oui, je ne lis plus, moi. C'est fini.
Est-ce que vous croyez tout ce qu'on vous dit?
Non.
Non, on ne croit plus la politique non plus.
Non, ça, c'est...
Déçu, j'ai pas.
Ah, complètement.
Déçu de la gauche.
Ah, complètement.
Ah, complètement déçu de la gauche.
Est-ce que vous êtes crédule ou est-ce que vous êtes sceptique?
Comme les fausses.
Ça dépend du sujet.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Voilà.
Dans le monde d'aujourd'hui, les chrétiens sont considérés comme crédule, un peu naïf. Et j'ai regardé la définition dans la Larousse. Et quelqu'un de crédule.
Oh, okay.
Gullible.
Oui, oui.
Incredible.
C'est quelqu'un qui croit trop facilement, trop naïvement ce qu'on lui dit. Mais l'origine du mot, c'est le verbe credere en latin, qui veut dire croire. Donc quelqu'un de crédule,
c'est quelqu'un qui croit.
C'est un croyant.
Mm-hmm.
Donc les chrétiens, par définition, sont crédules.
Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire, il y a un peu un effet contradictoire là-dedans.
Oui.
Si Jésus te dit qu'il y a un éléphant dehors chez toi, tu dois le croire.
Mais c'est comme les montagnes.
Mais...
J'ai dit un éléphant pour dire un...
C'est Matthieu qui dit ça pour les montagnes.
Pour faire un gros... Ouais.
Matthieu dit, tu crois à la montagne, tu crois qu'elle va te jeter dans l'autre montagne.
Is that where we get the word creed from
in there? Yes. Belief. Mm-hmm. L'antonyme de crédule, c'est sceptique. Du grec skeptikos. Skeptikos, c'est quelqu'un qui examine. La définition de la Larousse d'un sceptique, c'est quelqu'un qui a tendance à mettre en doute les croyances et les vérités couramment admises. Or, la foi chrétienne ne peut pas vraiment être considéré comme une croyance et une vérité couramment admise. Donc les chrétiens sont, par définition, sceptiques. D'après la Larousse. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime les sceptiques, mais il veut qu'ils deviennent croyants. L'autre bonne nouvelle, c'est que Dieu aime les crédules, mais il veut qu'ils examinent la vérité. Donc, ce matin, je veux que vous réfléchissiez. Est-ce que vous vous considérez, est-ce que vous considériez crédule ou sceptique? Ce matin, je veux regarder un sceptique dans la Bible. Son histoire se trouve dans Jean chapitre 20. Donc, si vous avez vos Bibles, trouvez ce passage. Les versets clés seront sur l'écran, mais c'est bien aussi d'avoir une Bible entre les mains.
Ça fait un bon support.
C'est bien de vérifier que
je
n'ai pas pioché les versets.
On te fait confiance quand même.
Bah oui, mais vous êtes crédule en fait. Vous êtes crédule.
Je ne vais pas nous inventer des versets quand même.
Jean combien?
Un peu de Jean chapitre 20. Un peu de scepticisme, ça fait du bien. Un autre antonyme de crédule, c'est incrédule. Là, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui ne veut pas croire, qui refuse de croire. Et Jésus en parle dans Jean chapitre 3, à partir du verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça, c'est les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire. Mais un sceptique, il examine le fond de la chose. Il peut changer sa position quand il découvre la vérité. Tout le monde ne réagit pas de la même façon face à la même chose. On voit ça quand on regarde un film. Un couple peut aller au cinéma pour regarder un film, il y a une scène déchirante et la femme est là avec des larmes qui coulent à flot. Et l'homme, il reste passif, stoïque. Ou un pessimiste et un optimiste qui regardent tous les deux le même verre d'eau. Ou en Vendée, ça serait un verre de vin. Le pessimiste, il va dire que le verre est à moitié vide. L'optimiste va dire que le verre est à moitié plein. Le psalmiste va dire que sa coupe déborde. Mais ça, c'est... On verra ça une autre fois. Deux personnes peuvent aller à la même église, le même jour, écouter le même message. La première va le trouver ennuyeux. Elle n'est pas du tout touchée ou émue par ce qu'elle entend. La deuxième va être profondément touchée jusqu'à changer sa vie de façon radicale. Différentes personnes réagissent différemment à la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin. On va voir les réactions des disciples face à la résurrection. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins ce qui s'est passé ce premier jour de Pâques. Marie de Magdala, toujours dévouée à Jésus, s'est présentée au sépulcre dès le dimanche matin, non pas pour voir le Seigneur ressuscité, mais pour embaumer le corps qui avait été enseveli à la hâte le jeudi après-midi, parce qu'il n'avait pas le droit d'y toucher après la tombée de la nuit. Elle s'est retrouvée face à face avec Jésus. Ressuscité. Elle l'a pris pour un jardinier.
Mmh. Et pourquoi elle l'a pas reconnu ?
Il était mort.
Oui.
Tu t'attends pas à voir quelqu'un que tu as vu mourir.
Oui, mais il avait la même tête qu'avant.
Oui, mais elle l'a vu mourir.
Oui. Oui.
Quand Jésus a prononcé le nom.
Il était torturé, il était crucifié.
C'est ce que je pensais.
Oui.
Son corps était abîmé.
Brisé, ouais.
Et puis, il a ressuscité. Parfait.
Avec des cicatrices.
Jusqu'à dire qu'on
avec des cicatrices.
Son visage était.
Cicatrices et pas blessure.
Oui. Ouais. Quand Jésus a prononcé le nom de Marie, elle l'a reconnu. Elle s'est approchée de lui pour le saisir et Jésus a dit, ne me touche pas.
Pourquoi ?
Je ne suis pas encore
ce matin, je veux qu'on regarde les réactions, pas de Marie de Magdala, mais de Jean, Pierre et Thomas. Jean, il a écrit l'évangile, Apocalypse et trois épîtres. Il est connu pour sa sensibilité spirituelle. Pierre, impulsif. Vous savez pourquoi Jésus lui a donné le nom de Pierre ? Quand il a commencé à suivre Jésus, il s'appelait Simon. Un jour, il demande à Jésus, « Pourquoi tu m'as donné le nom Pierre ?» Et Jésus lui dit, « Tu te souviens le jour où on a marché tous les deux sur l'eau, tu as détourné le regard ?» Tu t'es enfoncé comme quoi ?
Il dit pas ça dans la Bible.
Et puis nous allons voir la réaction de Thomas. Un de mes héros dans la Bible. Thomas, c'est celui qui doute.
Qui doute.
Tous les trois étaient des disciples dévoués de Jésus, mais ils avaient des personnalités différentes. Ce matin, vous allez peut-être vous retrouver dans une de ces personnages. Donc, on va lire Jean chapitre 20, les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple, Jean, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Quand vous écrivez votre propre évangile, vous pouvez mettre ce genre de détails. Jean se vante d'avoir battu Pierre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc Marie et les autres femmes étaient revenues du sépulcre pour annoncer aux disciples et à Pierre. On voit dans Marc 16, verset 7, allez dire à ses disciples et à Pierre. Jésus tenait absolument à ce que Pierre le sache. Que le Seigneur était ressuscité. Donc Pierre et Jean le savaient. Il devait se dire, mais comment est-ce possible? C'est intéressant de noter que Pierre était avec Jean ce jour-là. Parce que la dernière fois que nous avons vu Pierre, ceux qui lisent leur Bible le savent, c'était un homme brisé. Dans Marc 14, verset 72, aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. C'était un homme brisé. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé comment Pierre a réagi après ça. Il avait renié le Messie.
Oui. Mais il y en a qui disent, alors après, je ne dis pas que le diable, enfin, avait, alors je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, avait, entre guillemets, était dans ses pensées, en fait. Je n'ai pas dit que c'était vrai, je n'ai pas dit que c'était faux.
La Bible ne dit pas clairement ce qu'a fait Pierre après. Mais il semblerait que Jean l'ait accueilli chez lui pour s'en occuper. Parce que quand Marie et les autres femmes sont allées, elle a annoncé à Jean et à Pierre. Et c'est un peu à ça que servent nos frères et nos sœurs. Quand on est brisé, quand on échoue, ils sont là pour nous relever. On lit dans Ecclésiaste chapitre 4, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Vous pouvez relever un frère ou une sœur qui est tombé, et la prochaine fois, c'est peut-être vous qui avez besoin d'être relevé. Ça peut arriver à n'importe qui.
Tout à fait.
Et puis dans Galates, chapitre 6, « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc oui, Pierre, il a tout gâché. Oui, il a renié le Seigneur. Il a dit, mais je ne le connais pas. Mais il s'est approché de ses amis pour le soutien. C'est après avoir tout gâché que nous avons besoin les uns des autres plus que jamais. Je dis souvent que l'Église n'est pas là pour ceux qui sont parfaits. C'est un hôpital pour ceux qui sont brisés, pour les pécheurs. Donc Jean et Pierre se sont rendus au sépulcre. Et comme j'ai relevé tout à l'heure, Jean est arrivé en premier. Mais pourquoi, blague à part, pourquoi Jean a rajouté ce détail ? Est-ce que c'était seulement pour que tout le monde sache pour toute éternité qu'il a battu Pierre dans un sprint ? Je pense qu'il y a autre chose. Il est tout à fait possible, quand on lit les évangiles, que Jean soit plus jeune que Pierre. Donc il y a peut-être un élément de jeunesse qui prime un peu, mais je pense que c'est autre chose encore.
Hier, j'ai regardé un peu sur LMC qui parlait de la Bible et qui parlait. Alors, il y a les Bibles qu'on a, les évangiles qui sont reconnus par l'Église catholique.
Canonique.
C'est tout à fait ça.
Merci.
Mais il y a aussi les autres évangiles
apocryphes.
Merci, mon prince. Philippe, Thomas. Marie de Magdala.
Marie aussi.
Et Marie aussi, tout à fait. Et ce que je voulais dire, c'est que Marie de Magdala, enfin, c'est dit que Marie de Magdala était la première. Et elle est revenue pour le dire. Et il y a Pierre et Jean qui sont fait la course pour aller. Alors, c'est pas dit dans le. Il y a un autre truc aussi qui se dit, c'est que Marie de Magdalette est la femme de Jésus. Alors, bon, je m'excuse, hein, si je dis ça, mais...
Non, c'est vrai que c'est dit, ouais.
Dans notre Bible,
je veux pas
on a quatre évangiles.
Canoniques.
Il existe des centaines.
Je veux pas détourner son...
Enfin, il en existe des centaines. Pourquoi on en a quatre ? Parce que les responsables des églises au début de l'ère chrétienne ont considéré que ces quatre-là étaient fiables, étaient inspirés de Dieu, et que les autres n'étaient pas forcément écrits par des témoins oculaires. Alors que Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc et Jean, ils faisaient partie des 12. Luc a accompagné Paul et il connaissait tous les apôtres. On voit ça dans le livre des Actes.
Oui, tout à fait.
Les autres, bon, il y en a qui sont supposés être écrits par Marie de Magdala, Jacques, Barnabé, d'autres personnages du milieu des apôtres. Mais l'Église primitive, dans le sens chronologique, pas dans le sens développement, mais l'Église primitive considérait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que c'était véritablement écrit par cette personne-là. Donc, ils les ont écartés. Donc, pourquoi Jean...
Je te mets le lien des livres.
Pourquoi Jean aurait... marqué qui est arrivé avant Pierre. Je veux que vous vous souveniez quand vous étiez petit. Vous avez désobéi à votre mère et elle a dit, tu verras quand ton père rentre. Le temps semblait long. Les secondes duraient des heures. Finalement, vous avez entendu le crissement des pneus de la voiture de votre père. Est-ce que vous êtes pressé pour aller le voir? Est-ce que vous avez couru pour voir votre père comme tous les autres jours? Papa, je suis content que tu sois rentré. Non, vous traînez vos pieds. Vous saviez qu'il était déjà au courant de vos bêtises. Et vous vous êtes caché parce que vous saviez que son retour apporterait une correction pour vous. Maintenant, mettez-vous à la place de Pierre. Jésus lui a dit textuellement qu'il allait renier son Messie. Jésus savait ce qu'il avait fait. Et puis là, on lui annonce que ça y est, il est revenu. Allez le voir.
Pierre,
il a traîné les pieds. Il n'a pas couru avec le même enthousiasme que Jean. Il devait se demander ce que Jésus allait lui dire. La dernière fois que Pierre avait vu Jésus, Jésus lui avait annoncé le triple reniement. Et Pierre en pleurait. Il pensait qu'il avait envie de revoir Jésus. Qu'est-ce qu'il va me dire? On découvrira comment Jésus a réagi face à Pierre quand on arrive à ce passage dans notre parcours de l'évangile de Jean. Mais ce matin, je veux qu'on se concentre sur la réaction des disciples face au tombeau vide. Dans Jean chapitre 20, verset 1, Marie de Magdala vit. Dans le même chapitre, au verset 6, Simon-Pierre vit. C'est dommage que vous lisez le français, pas le grec. Verset 8, Jean, votre disciple, c'est Jean, il vit et il crut. Alors, on ne se rend pas compte en français que l'importance de ces verbes, mais si on lit dans le grec, on voit quelque chose de remarquable. Jean chapitre 20, verset 1. Marie vit. J'ai une petite illustration. Ce verbe dans le grec, c'est blepo. Ça veut dire voir physiquement avec ses yeux. Ça, c'est Marie. Jean chapitre 20, verset 6, Simon-Pierre, il vit. Encore une illustration. On pourrait s'attendre à ce que ce soit le même verbe, mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est le verbe théoréo. C'est un verbe qui veut dire regarder attentivement, voir mentalement, considérer. C'est la théorie. Dans Luc chapitre 24 verset 12, on voit que Pierre s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et puis dans Jean chapitre 20 verset 8, l'autre disciple, donc c'est Jean, il vit et il crut. Et là, le verbe « voir » dans le grec, ce n'est pas le même que les deux autres. C'est le verbe « aido ». Ça veut dire « connaître », « prendre connaissance de », « comprendre », « percevoir ». Non seulement il a vu, mais il a compris. Et c'est pour ça qu'on dit, il vit et il crut. Il a compris, il a cru. Jean avait cette capacité de comprendre plus vite que les autres. C'est peut-être la jeunesse encore. Dans le dernier chapitre de Jean, on y arrivera un jour peut-être, on voit les disciples dans une barque en train de pêcher. Ils n'ont rien pris. Et puis un homme sur le rivage les interpelle dans Jean chapitre 21, à partir du verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. C'était des pêcheurs professionnels avant d'être disciples. Ils ont passé la nuit à pêcher. Rien. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, devinez qui c'est Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est Jean qui a compris en premier. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Je vous avais dit qu'il était impulsif. Hein. Il était tellement excité, il n'a pas attendu les autres. Il s'est jeté à la mer, il a rejoint Jésus à la nage. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, les disciples, ce dimanche matin? En arrivant devant le tombeau vide, le tombeau où on avait posé leur ami, leur compagnon, après son décès, ils ont vu quelque chose d'unique. Dans leur culture, un cadavre serait enveloppé un peu comme une momie, avec des épices mis dans les tissus pour préserver le corps. Ils n'avaient pas les techniques pour embaumer un corps que nous avons de nos jours. Maintenant, quand on meurt, ils retouchent le corps et on est plus beau quand on est mort que de son vivant. Mais à l'époque de Jésus, un cadavre était enveloppé comme une momie et la tête était enveloppée séparément. Et Marie, Pierre et Jean ont vu les bandes dans lesquelles Jésus avait été enveloppé, non pas pliées et rangées, non pas non plus déroulées et laissées par terre, mais étalées en place. On voit mieux dans le grec que dans le français, mais Jean chapitre 20, verset 7, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Dans le grec, littéralement, c'est les bandes étaient étalées en place. Ce n'est pas que quelqu'un avait enlevé les bandes, c'est que le corps, tout simplement, n'était plus enveloppé. Les bandes étaient encore là. Le corps avait disparu.
Mais Jésus n'était pas nu non plus. Il portait ses vêtements.
Ah non. Non, quand il est crucifié, il était tout nu. Hein.
Ah, il avait un jean, un t-shirt et un sandales.
Non, mais quand il rencontre les autres, il a donné une robe.
Ça, c'est une bonne idée, la
vie. Il a donné quelque chose à porter.
Ah.
J'ai jamais pensé à cette question.
Ah, moi non plus. Mais c'est une bonne question. Merci d'avoir posé.
Donc, c'est écrit en Apocalypse que on va nous donner un nouveau vêtement à la résurrection.
Bravo.
Donc, Marie, Pierre et Jean sont allés au sépulcre. Et ils ont vu les bandeaux avec lesquels on avait enveloppé le corps de Jésus. Ils ont vu que personne ne les a déroulés. mais que le corps n'y était plus. Marie vit. Pierre vit.
C'est pas la même vie. Hein.
Jean vit. Ah. Jean a compris. Marie semble passer à côté de la chose. Pierre voit que quelque chose n'est pas normal, mais il n'arrive pas à, mettre la main dessus. Il sait qu'il se passe un truc, mais il ne sait pas quoi. Mais Jean voit et comprend toute la signification. Comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes différentes peuvent voir la même chose et réagir différemment. Je vous ai parlé aussi de Thomas. On va voir maintenant comment Thomas réagit face à la résurrection. Ce Thomas qui est connu parce qu'il doute. On trouve son histoire au verset 24 de Jean chapitre 20. Il n'est pas allé voir avec Pierre et Jean. Il n'était même pas présent avec les autres disciples le dimanche soir lorsque Jésus est apparu dans une salle avec les portes fermées à clé. Donc Jean chapitre 20 à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, ça veut dire le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, c'est-à-dire verrouillées en grec, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous.
Il est passé à travers la porte.
La porte, le mur, le plafond. Il était là. Avant, il n'était pas là. Là, il est là. C'est tout ce qui est marqué. Je ne sais pas par quel chemin il est... Je ne sais pas s'il est venu comme ça, ou je ne sais pas. Puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc moi, je pense qu'on a mal étiqueté Thomas. Il est connu comme celui qui doute. Mais je suis sceptique. Thomas, c'est quelqu'un qui pensait pour lui-même. Il était sceptique selon la définition que nous avons vue tout à l'heure. Il ne laissait personne réfléchir à sa place. Il ne croyait pas simplement sur les dires de quelqu'un d'autre. Il avait besoin de savoir de lui-même. Les autres disciples lui avaient dit, Jésus est venu. Il connaissait ces personnes. Il savait qu'il ne mentirait pas. Mais il voulait savoir pour lui-même. J'aime bien Thomas. Je me retrouve un peu en lui. Je ne suis pas celui qui entend et qui croit tout de suite. J'ai besoin de creuser pour en savoir plus et former ma propre opinion. Et ce n'est pas forcément mauvais. Parce qu'on ne peut pas vivre sur la foi de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas croire tout simplement parce que quelqu'un d'autre dit que c'est vrai. Même pas le pasteur le dimanche matin. Quelqu'un m'a envoyé un document l'autre jour qui provenait d'un autre groupe religieux. Et dans ce texte, j'ai lu « Au début de décembre 1999, les Pléiadiens ont contacté le mouvement de la résistance sur la planète X et déclenché un soulèvement massif contre les Illuminati s'y trouvant. Les Illuminati ont été vaincus en 3 semaines environ et ont dû fuir vers leur base sur Mars et la Lune. Durant cette période, de nombreux combattants de la liberté du mouvement de la résistance ont pénétré dans les systèmes de tunnels souterrains de la Terre pour rejoindre l'organisation dans leur lutte. Les deux forces ont fusionné en une seule, appelée mouvement de la résistance. Il ne faut pas croire tout ça, tout simplement parce que quelqu'un le dit.
Surtout en ce moment, j'ai envie de dire.
Avec tout ce qui depuis, balance, comme depuis pas mal de temps même, depuis pas mal d'années.
Oui, bien sûr.
Thomas, il était comme ça. Il ne croyait pas juste parce que quelqu'un lui a dit. Et malgré le fait que Thomas ne se trouvait pas avec les autres disciples lors de la visite inattendue de Jésus, et tout comme Jésus est apparu à Marie de Magdala, la dévouée, Jésus est apparu à Thomas, le sceptique. Il paraît qu'il y a environ 8,22 milliards de personnes sur Terre. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 8,22 milliards de personnalités différentes. C'était dur en calculant. Dieu aime chacun d'entre eux. Thomas était sceptique. Et au verset 25, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Regardez à quel point Dieu se soucie de chacun. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est un des plus beaux versets de la Bible. Parce que ça prouve que Dieu est prêt à présenter une preuve personnalisée à celui qui en cherche avec un esprit ouvert.
Et en temps de lutte aussi.
Oui. Alors, un point à relever quand même, Thomas n'était pas avec les autres disciples la première fois que Jésus est apparu. Thomas n'était pas avec eux et il a donc loupé une occasion de rencontrer Dieu.
Pourquoi il n'était pas avec eux d'ailleurs ?
Ce n'est pas marqué. Peut-être qu'il était à une cousinade. Ça arrive. Hein, je ne sais pas si vous écoutez l'enregistrement, mais certains se rendent à des cousinades au lieu d'aller à l'église.
Mais ils ne devaient pas faire Shiva tous ensemble. Ils ne devaient pas faire le deuil tous ensemble.
Shiva.
Je dis Shiva.
Le deuil.
Il est parti.
Shiva, c'est pas.
C'était. Non. Si. C'est un mot hébreu.
Ah bon, d'accord.
C'était le moment de la Pâque. C'est une grande fête juive, donc peut-être qu'il était. On ne sait pas, c'est pas marqué dans la Bible, ouais, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il avait une raison valide pour ne pas être là.
Oui, si.
Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il voyait régulièrement les disciples.
sert Jésus.
Thomas. Il n'était pas là quand Jésus est revenu. Le dimanche soir.
Mais il avait une activité professionnelle.
Peut-être qu'il bossait, ouais. Peut-être. Mais
c'était Shabbat en plus.
Les versets 24 et 25, quand les autres disciples lui disent qu'ils ont vu Jésus, c'est avant le dimanche suivant. Donc Thomas rencontrait les disciples pendant la semaine. 8 jours après la première visite de Jésus, Thomas se trouvait avec les autres. Et je pense que c'est important de relever que Jésus ne s'est pas présenté à Thomas tout seul. Jésus n'est pas allé chez lui. Jésus a rencontré Thomas avec une parole personnalisée, une preuve personnalisée, mais quand il était avec les autres. Le problème, quand on n'est pas en communion avec d'autres chrétiens, souvent on n'est pas en communion avec Dieu. Et le contraire est vrai aussi, quand on n'est plus en communion avec Dieu, souvent on arrête d'être en communion avec les autres chrétiens. Certes, on ne vit pas sur la foi de quelqu'un d'autre, je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut être un chrétien en isolation. Je ne vous le conseille pas. Où habite Dieu ? Selon le psaume 22, il habite la louange de son peuple. On peut louer Dieu quand on est seul. Mais c'est tellement mieux en groupe. Demandez à quelqu'un qui vient aux soirées louanges. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, là, c'est Jésus qui parle, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher de Dieu. Amen. Des fois, quand quelqu'un ne vient pas un dimanche, le dimanche suivant, ou le mercredi, on leur dit, « Oh, tu nous as manqué, t'aurais dû être là, c'était super. » Imaginez un peu ce que les disciples ont dit à Thomas. Il n'était pas là le soir de la résurrection. T'aurais dû être là l'autre jour. On a eu de la visite. Ah oui, de qui ? Jésus. Mais oui.
Bon, ben alors là, je te crois même pas.
C'est ça. Je te croirais si je peux mettre mon doigt dans les trous dans ses mains et mettre ma main dans son côté. Donc Jésus est apparu aux disciples. Ils l'ont dit à Thomas. Thomas a dit, je veux le voir de mes yeux. Et depuis ce jour-là, on appelle Thomas celui qui doute. On pourrait éventuellement le critiquer parce qu'il n'était pas présent avec les autres. Mais on ne peut pas justifier la critique de son scepticisme. Tout ce qu'il demandait, c'est ce que les autres avaient déjà vécu. De voir de ses propres yeux. Thomas n'était pas crédule. Il forgeait sa propre opinion. Thomas ne suivait pas la foule. Il jouait franc jeu. Il n'avait pas peur d'exprimer ce qu'il ressentait. Une fois Jésus parlait, les disciples écoutaient. Jésus disait, vous savez, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Vous savez où je vais ? Vous en savez le chemin. Et tous les disciples étaient là, ouais, d'accord, c'est bien. Mais en fait, aucun d'entre eux ne comprenait. Aucun d'entre eux n'avait une idée de ce que disait Jésus. Et dans Jean chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, Nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Merci à Thomas d'avoir posé la question. Et Jésus, il lui répond, Thomas, mais t'es con ou quoi ? Non. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Heureusement que Thomas était là pour poser la question. Parce que ça nous a donné une des plus grandes citations de Jésus. Thomas était honnête. Il n'avait pas peur de dire qu'il n'avait pas compris. Une autre fois, quand Lazare était malade, vous vous souvenez, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, les disciples ne voulaient pas aller à Béthanie parce que les Juifs avaient cherché à lapider Jésus. Et quand Jésus dit aux disciples, allons vers lui, Thomas répond dans Jean chapitre 11, verset 16, allons aussi afin de mourir avec lui. Donc Thomas ne comprenait peut-être pas tout ce qui se passait, mais il était prêt à y aller. Il était prêt à mourir si nécessaire. Et depuis 2000 ans, on le critique, on l'appelle celui qui doute. Mais il était courageux. Il pensait pour lui-même. Il n'avait pas peur de parler. Il était prêt à mourir pour le Seigneur. Donc oui, il a loupé la visite de Jésus, mais il a répondu présent la fois suivante. Il ne doutait pas, c'était un sceptique. Quelqu'un qui doute fait des excuses pour ne pas y aller, mais Thomas était là. Thomas voulait voir de lui-même. Donc il était là, et Jésus est venu. Et on a l'impression qu'il est venu exprès pour Thomas. Regardez comment Dieu réagit face aux différentes personnes. À Marie Magdala, il avait dit, ne me touche pas. Et à Thomas, il a dit, vas-y, touche-moi. On lit dans Jean 20, verset 27, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et regardez la réaction de Thomas. Il n'avait plus besoin de preuves. Il avait demandé de voir de ses propres yeux et il a vu de ses propres yeux. Il tombe à genoux devant Jésus et au verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur,
et pourquoi il ne fallait pas que Marie Magdala touche Jésus ?
On verra ça quand on arrive à Jean chapitre 20 dans le parcours de l'évangile de Jean. L'autre jour,
voilà,
mon Seigneur, oui. Mon Dieu. L'autre jour, il y a deux témoins de Jéhovah qui se sont présentés chez nous.
Oh, okay. Et toi aussi.
Vous savez que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus aurait pu répondre, ne dis pas cela. Ne m'adore pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il a accepté cette adoration de Thomas. Pourquoi ? Parce que c'était vrai. Il est le Seigneur. Il est le Dieu. Et à ce moment-là, Thomas n'est plus sceptique, Thomas est croyant.
Amen.
Et les témoins du Robin, vous restez combien de temps chez toi ?
Oui, je n'ai pas discuté avec eux, j'étais occupé. Je savais que si je leur ouvrais la porte, j'y passais ma matinée. Il ne suffit pas de croire que Dieu existe. Il ne suffit pas non plus de croire que la Bible est la parole de Dieu. Il ne suffit même pas de croire que Dieu a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix, mourir pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Il doit devenir ton Seigneur et ton Dieu. Tant qu'il n'est pas devenu ton Seigneur et ton Dieu, même si tu crois tout le reste, tu n'auras jamais accès au paradis. Il faut les croire, certes, mais il faut agir avec ces croyances. Il faut que Jésus devienne ton Seigneur et ton Dieu. Il faut à un moment donné prendre la décision de dire à Jésus, je veux que tu deviennes mon Sauveur, je veux que tu deviennes mon Seigneur, je veux que tu deviennes mon Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne te regardera plus comme un pécheur. Parce que le sang de Jésus, on en a parlé ce matin, ce sang qui est nécessaire pour expier les péchés, comme expliqué dans la loi de Moïse, ce sang aura lavé tes péchés passés, présents et futurs. Dieu te considérera comme un de ses enfants. Parce que dans Jean 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait ce week-end-là. Merci d'avoir été le sacrifice pour nos péchés. Merci d'avoir été la malédiction qui nous ouvre la porte aux bénédictions. Merci d'être mort pour nous donner la vie. Et merci d'être ressuscité, d'avoir vaincu la mort, vaincu la puissance de l'enfer. Seigneur, nous te déclarons notre Seigneur et notre Dieu, tout comme Thomas. Et nous te disons que nous croyons. Je crois que tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu.
Tu peux remettre le dernier verset sur l'écran. Jean chapitre 1. Alors, c'est marqué que à celui qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous disons souvent que quand nous sommes venus en France, nous avons et nous avons toujours 3 enfants et on avait le droit de l'allocation familiale, une allocation splendide comme famille nombreuse, mais personne n'a frappé à notre porte en disant voici votre allocation familiale. Nous avons lutté contre la bureaucratie française et ça a pris le temps. Nous avons eu le droit that nous avons le pouvoir de recevoir l'allocation familiale. Mais il faut agir. C'est la même chose. Nous pouvons devenir enfants de Dieu, mais il faut une réponse. Il faut agir.
Il y en a beaucoup qui agissent maintenant un peu pour l'allocation.
Je ne sais pas à quel point dans la vie vous êtes en ce moment, ce matin, mais si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas demandé à Jésus de venir Seigneur de votre vie, c'est le moment de demander la prière de l'accepter Jésus ce matin. C'est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle vie.